a beaucoup plus de vivacité que de goût parmi les hommes. Ou pour mieux dire, il y a peu d'hommes dont l'esprit soit accompagné d'un goût sûr et d'une critique judicieuse. C'est ce qu'on peut lire dans les caractères de la Bruyère. Ah, l'esprit critique, à l'ère des canaux de communication tous azimuts, il semble être mis à rude épreuve. D'ailleurs, selon un récent sondage OpinionWay, 4 Français sur 10 admettent ne pas avoir, tout court, d'esprit critique. Alors, question que nous nous posons en toute simplicité ce matin, sommes-nous en train de perdre notre esprit critique ? Eh bien, je vous propose de tenter de répondre à cette question dans cette émission, en compagnie de mes deux invités et spécialistes du jour, Véronique Reissoult. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Vous êtes enseignante, experte en stratégie de réputation. Vous allez nous expliquer ce que c'est que cette histoire. En communication de crise et spécialiste de l'opinion. Vous avez cofondé et vous présidez le cabinet Backbone Consulting. Vous êtes aussi chroniqueuse. On peut mentionner donc ce dernier ouvrage qui est une sorte de bible pour comprendre vraiment ce que c'est que les réseaux sociaux. L'ultime pouvoir, la vérité sur l'impact des RS, comme disent les jeunes, les réseaux sociaux, aux éditions du Cerf. Et puis Emmanuel Juste-Duit, bonjour monsieur, bonjour Emmanuel.
Bonjour Marie-Ange.
Alors vous êtes philosophe, enseignant, cofondateur de différentes initiatives dont les Wikipédia, je suis tombée dans le panneau évidemment, les Wikidébats, oui, les Cafés de l'Info. Vous avez écrit de nombreux ouvrages dont ce petit dernier, Doper son esprit critique, penser et agir dans un monde complexe. Dieu sait que c'est le cas aux éditions de la Chronique Sociale. Alors, je vais commencer par sortir un mot qui m'a complètement ahuri. Amateur de Scrabble, ouvrez grand vos oreilles. L'ultra-crépidarianisme. Véronique, est-ce qu'Emmanuel connaît ce mot ?
Ah non, pas du tout. Je vais apprendre quelque chose.
Et si on partait de ce mot pour plaisanter un peu au début d'émission, Véronique ?
Eh bien, ce mot, on pourrait le résumer en disant c'est dire tout et n'importe quoi sur ce que l'on ne connaît pas.
D'accord.
Et c'est devenu quand même une spécialité. Alors, le moment le plus, on va dire, ultime de ce sujet était pendant la période Covid. Tout le monde était devenu spécialiste des vaccins, de la vaccination, savait mieux que quiconque. Alors qu'en réalité, il y a quand même peu d'experts au monde qui sont spécialistes du vaccin. Eh bien, c'est ça. Ce mot veut juste dire qu'on a pris l'habitude d'avoir un avis sur tout, même quand on n'en a pas et qu'on ne connaît pas le sujet.
C'est un symptôme de quoi ? Est-ce que c'est un symptôme ?
C'est un symptôme de « il faut exister aujourd'hui » et pour exister aujourd'hui, c'est votre valeur sociale plus encore qu'hier et que votre valeur sociale passe par une somme d'expertise et de connaissance.
Ouais.
Et puis, c'est aussi un syndrome social parce que nous vivons dans un monde où on a l'impression que notre avis est aussi important que celui du voisin, qu'on a besoin de s'exprimer, on a besoin d'être entendu, on a l'impression que dans le fond, les experts ne sont plus si experts que ça.
Ouais.
Alors pourquoi ? D'abord parce qu'il y a une défiance envers les élites. Et puis aussi parce que, on va en parler, cette infobésité, cette espèce de nouvelle manie d'avoir énormément d'informations donne l'impression qu'on finit par maîtriser des sujets alors que bien souvent, le sujet, on a peut-être des informations mais pas le recul nécessaire pour les comprendre.
Quel est le début d'analyse, l'introduction, Emmanuel Juste-Duit, que vous donneriez à cette espèce d'effectivement impression qu'on est envahi par des tonnes d'informations ? On pourrait croire que de prime abord, l'être humain est ravi puisqu'il dispose de plein de canaux et qu'en fait, on a l'impression que c'est exactement le contraire qui est en train de se produire. C'est très étonnant, n'empêche, quand on y pense.
Oh, c'est pas étonnant, je crois que c'est un effet trop plein. Je crois que c'est vraiment un tsunami, un bombardement. Quand on pense au nombre de sites, je sais pas combien, au nombre de YouTube. Moi, j'ai la tête qui me tourne quand je vais dans une Fnac, parce que je regarde des rayons de livres. Il y a des rayons, des livres et des livres et des livres. Et quand je pense, quand j'imagine que derrière chaque livre, surtout quand vous êtes dans des rayons sciences sociales, sciences politiques, c'est pas un individu.
Ouais.
Quand vous avez une petite tranche de livres, mais ça représente un mouvement entier d'idées. Donc on se dit, c'est un foisonnement terrible. C'est des milliers et des milliers de personnes qui tirent chacun dans des sens différents. C'est aussi une confusion de discipline de la connaissance, parce que là nous avons appris un nouveau mot aujourd'hui, mais effectivement, qui peut se targuer de connaître quelque chose à quoi que ce soit? Il y a une telle spécialisation. Je me souviens d'avoir discuté avec des gens scientifiques en biologie, et ils me disaient, moi, hors de ma spécialité, par exemple la microbiologie, je peux pas parler de neurosciences.
Ouais.
C'est-à-dire que la spécialisation, la fragmentation est telle que si on doit parler de simplement de ce qu'on connaît vraiment, qui connaît vraiment à quoi que ce soit. Donc c'est une crise de la confiance, effectivement, dans les élites, etc. Mais c'est aussi une crise qu'on s'avoue peut-être pas à soi-même. On sait au fond de nous qu'on ne connaît rien et on est confronté constamment à ça. On est confronté à des milliers, voire des milliards d'informations que finalement on ne peut pas juger. Donc à qui se fier ? L'exemple des vaccins est très bon. Qui pouvait avoir un avis éclairé sur les vaccins ? Même à la limite des médecins ou des étudiants en médecine, ils disaient on a fait 1 heure et demie de cours dans nos études sur les vaccins. Donc comment faire ? Même des médecins, il fallait des vaccinologues et encore, ouais. Est-ce qu'ils étaient d'accord entre eux ? Je ne sais même pas.
Moi, c'était pas le cas.
Imaginez l'incertitude. Donc on est entré dans un territoire d'incertitude. Je pense relativement affolant, et surtout on a un rapport ambigu avec ça, parce qu'on en est à la fois conscient et non conscient, c'est-à-dire qu'on le sait intellectuellement, mais ça crée une sorte de désarroi, et je pense qu'on va réagir par ce désarroi, par des stratégies d'évitement, c'est-à-dire qu'on va éviter de se confronter à autant d'informations, on va tendre, à la limite, plus il y a d'informations, plus on va tendre à se créer des territoires rassurants, limités, balisés, on peut essayer de retrouver ces petits, quoi, si vous voulez.
C'est-à-dire que, par exemple, on prend un exemple pour nos auditeurs qui sont un peu perdus. On a pris le Covid, on peut prendre n'importe quoi, un enjeu politique quelconque.
Des questions sciences-société, par exemple, le nucléaire ou les OGM.
Le nucléaire,
vous allez avoir des gens, dans les années 70-80, il y avait une sorte de consensus scientifique des gens sérieux pour dire que le nucléaire, ça marchait, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de contestation du nucléaire. La contestation, elle était aux marges, c'était quelques marginaux qui n'étaient pas pris au sérieux globalement. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus balancé. Vous allez avoir des anti-nucléaires qui vont vous dire « oui, les déchets sont très dangereux », des pro-nucléaires qui vont dire « non, on peut quand même résoudre ce problème-là ». Effectivement, ils vont reconnaître.
Et on les écoute.
Et on écoute des gens qu'on n'écoutait pas dans les années 70. Et c'est comme ça pour tous les sujets. La 5G, l'antenne 5G, est-ce qu'elle est dangereuse ou pas dangereuse ? Vous allez avoir des experts et des contre-experts. Et l'individu, comment peut-il s'orienter face à ça ? Bon, c'est toute la question que j'essaie de me poser. Comment des individus, comment l'intelligence collective plutôt, peut-elle structurer et hiérarchiser cette information ?
Vous ne parlez même pas d'intelligence personnelle, vous parlez même là juste du collectif. Alors,
ah oui.
On n'entend même pas.
L'intelligence personnelle, elle est désemparée.
Vous
elle
êtes
est
d'accord ou pas, Véronique ?
Non seulement je suis d'accord, mais je pense même que l'intelligence collective est ce qui va nous sauver de cette situation. Parce que l'intelligence personnelle, vous pouvez même avoir quelqu'un qui est particulièrement brillant, effectivement, face à l'ensemble des informations qui arrivent, comme on est perdu, on a tendance à se recentrer et à se, comme c'est assez effrayant, à s'enfoncer sur une sorte de conviction et parce que bon, il y a en plus des tas de, d'éléments physiologiques. Quand vous regardez des messages de gens qui sont d'accord avec vous, non seulement ça vous conforte, mais ça crée de la dopamine, c'est-à-dire que tout d'un coup, c'est apaisant. Vous vous dites, c'est rassurant. Donc, votre intelligence personnelle et individuelle, elle a besoin de ce collectif. Et donc, je pense que l'intelligence collective est la clé pour sortir de beaucoup de sujets.
Et on a l'impression qu'on est en train de devenir des crétins quand on vous entend tous les deux, pardonnez-moi.
Non, pas crétins, mais c'est très angoissant quand vous avez autant d'informations
on
à traiter.
On n'a pas de recul, au fond, pour répondre à cette question.
Nous vivons dans le monde de l'instantanéité. On vit dans le monde du buzz. Est-ce que j'ai besoin de vous parler des politiques qui surréagissent beaucoup trop vite au moindre événement parce qu'il faut se positionner ? C'est pareil pour les individus. Il faut avoir un avis en quelques instants. Ouais. Et non, on ne peut pas se faire un avis critique, ne peut pas se construire en quelques instants. Ça demande une réflexion, ça demande du recul. Et donc, la réalité, elle est qu'on n'est pas plus bête, mais on est plus informé, pas forcément mieux informé d'ailleurs, et que le réflexe dans ces cas-là n'est pas...
Mais Véronique, c'est drôle parce que dans votre livre, on a l'impression que vous dites que ça ne date pas d'aujourd'hui,
non.
Ça date d'avant-hier presque. Mais expliquez-vous.
Ce qui a changé, c'est que l'arrivée des réseaux sociaux fait que tout le monde peut s'exprimer, que les informations sont apportées.
C'est du bon en même temps dans les réseaux sociaux.
Plein de choses formidables. On aime bien dire que c'est moche, mais je crois que c'est comme la société. Il y a le meilleur et le pire qui se côtoient. Et le meilleur, il y a énormément d'exemples où le collectif, justement, a créé quelque chose de formidable. Alors, ça a permis des mouvements comme MeToo, qui est quand même incroyablement puissant et qui a permis de faire avancer les choses. Ça a permis de mettre en place les Black Lives Matter. Par exemple, c'est donc dénoncer les violences policières qui étaient faites aux personnes de couleur noire aux États-Unis, et c'est un mouvement très fort. Il y a eu aussi des mouvements qui ont été inspirés par des images partagées dans le monde entier, comme le petit Elan, par exemple. Je ne sais pas si vous vous souvenez, cet enfant syrien qui avait été retrouvé mort sur la plage.
Il y a la solidarité aussi.
Des groupes de solidarité. Et puis, il y a beaucoup de solidarité. Vous prenez en Turquie, lors du dernier tremblement de terre, eh bien, ça a permis aux uns et aux autres de se retrouver, de partager des logements, d'apporter des premiers secours. il y a beaucoup de solidarité. Ça permet aussi à des gens qui sont isolés de trouver des groupes pour échanger, pour discuter. Ça permet d'organiser aussi des rencontres dans la vraie vie. Donc en fait, il y a plein de choses positives. Après, évidemment, le pire est là aussi, comme dans notre société, et on n'est pas toujours prêt à se protéger, ou en tout cas, on n'a pas les clés pour se protéger du pire. Donc le harcèlement, le cyberharcèlement et la violence sont sans doute ce qu'il y a de pire sur les réseaux sociaux.
Mais vous dites que déjà avant, je ne sais pas si vous êtes d'accord que ça date... Oui, peut-être avez-vous un avis sur la question, Emmanuel Just, quelle est votre vision historique des choses? Est-ce que finalement, c'est arrivé brutal? On a l'impression que tout s'est un peu joué de façon exponentielle au moment du Covid, côté esprit critique, menacé. Ça date de quand exactement? Quand est-ce que l'intelligence collective, pour reprendre votre terme, a été un petit peu menacée?
Alors, moi, j'aurais une perspective un petit peu différente, mais qui est peut-être personnelle, qui vient de comparer ce qu'était la société française, ou disons les sociétés d'Europe de l'Ouest, hein, la société française n'étant qu'un exemple de cela, par rapport à de mon enfance ou de mon début d'adolescence à mon âge adulte.
Comme je ne sais pas quel âge vous avez.
Alors, disons que je suis né dans les années 60. Ouais. Donc, si vous voulez, en 70-75, Paris, je veux dire, rencontrer quelqu'un qui faisait du yoga, c'était rare. Ça n'existait presque pas. Pouvoir manger un restaurant japonais, il n'y avait pas de restaurant japonais. Ou il y avait peut-être un restaurant japonais de luxe. Donc, moi, ma perspective, c'est déjà, il y a déjà eu un changement en passant d'une société
culturelle
relativement fermée, qui était des sociétés, disons, d'Europe de l'Ouest ou d'autres, de l'époque des années 70. Tout d'un coup, les choses se sont énormément ouvertes en très, très, très peu d'années au niveau historique, disons. Si on prend une perspective historique au niveau humain, ça a pris quelques années.
Ouais.
Mais si vous voulez, le fait que maintenant, même dans une ville moyenne, je ne parle même pas de Paris, on puisse faire de la calligraphie japonaise, qu'on puisse faire du yoga, n'en parlons pas, qu'on puisse faire du tai chi. Vous imaginez, même le mot tai chi n'était même pas, n'existait pas dans le vocabulaire.
Aujourd'hui, maintenant, c'est la crème de la tendance.
Maintenant, tout le monde sait ce que c'est. Le chamanisme, n'en parlons pas. Donc, vous imaginez qu'on est passé d'une société où les choix de l'individu étaient relativement restreints en termes de loisirs, en termes de mode de vie, à une société où déjà dans les années 80-90, tout a explosé au niveau des choix de l'individu. Donc déjà, ça a amené...
Le tout est possible en même temps que tout le reste, en fait.
Ça, c'est pas négatif en soi, mais simplement, ça amène une couche de complexité. C'est-à-dire quand, par exemple, on est sur Radio Notre-Dame, on parle des religions. Dans les années... peut-être jusqu'aux années 60-70, le choix, disons, le choix spirituel de l'individu, en gros, l'individu des sociétés chrétiennes pouvait être entre athéisme et christianisme, par exemple. C'était pas... Aujourd'hui, vous imaginez, avec
le spectre
l'époque
est énorme.
Des sectes des années 70, l'Inde, le soufisme, tous les courants spirituels, mouvements spirituels, là, je porte pas de jugement de valeur, ou c'est pas du tout mon propos, c'est simplement la quantité de choix possibles et d'options possibles, et de mise en question que ça implique. Parce que quand vous avez le choix entre deux options, si par exemple vous devez vous déterminer au niveau spirituel entre le christianisme et l'athéisme, vous avez un jeu d'arguments et un jeu d'informations, si je peux dire, assez limité entre ces deux options, enfin relativement vaste, déjà c'est très vaste. Mais si vous ajoutez le bouddhisme, qui est tout à fait une autre vision des choses, un chrétien, comment il va se positionner par rapport à un bouddhiste, par rapport à un hindouiste?
Les choses ont changé d'ailleurs,
Les choses ont changé, d'ailleurs l'Église en a tenu compte.
Tout le monde s'imprègne un petit peu de tout le monde, c'est-à-dire que voilà, le bouddhisme intéresse, nous intéressons.
Il y a des
autres
moines qui font de la méditation,
voilà,
il y a des neurosciences qui s'intéressent.
Parce que c'est les premiers chrétiens qui pratiquaient la méditation, mais bon,
oui, il y a la méditation de l'Église orthodoxe qui
absolument
fait aussi une forme de méditation
absolument
qu'on découvre. Donc, si vous voulez, donc déjà, ça c'est une première couche de complexité. Donc, moi, c'est déjà ça qui m'a intéressé. Et ensuite, il y a ce dont on parle après, mais ça c'est beaucoup plus tardif.
Mais pas tant que ça, En fait, oui, c'est une source de complexité puisque j'ai plus de choix,
oui,
encore plus.
Encore
on
plus
est d'accord.
Mais en même temps, j'ai plus de sources d'informations.
Ouais.
Et puis, j'ai une réalité qui est, je suis connectée à mes pairs, et donc je peux échanger plus facilement. Donc, je peux être mal ou bien orientée, mais en tout cas, je peux avoir un échange. Et on parlait des points positifs qui sont arrivés récemment. Pas si récemment que ça, mais disons, depuis une dizaine d'années.
Ouais.
J'imagine que vous êtes sur WhatsApp ou sur une messagerie de ce type-là, vous avez vu la simplicité pour communiquer avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, qui du coup...
Quand on y pense.
Voilà, c'est devenu simple.
Ouais.
Et donc, le fameux restaurant japonais qui n'existait pas à Paris il y a quelques années, ben, non seulement il existe, mais en plus, il y a quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, qui y a été, qui pourra vous dire, ah oui, alors ça, c'est la vraie nourriture japonaise ou cette spécialité-là, je ne te la conseille pas. Enfin voilà, ouais. Vous pouvez suivre des amis et des relations qui sont loin. Il y a aujourd'hui, vous avez une réalité de micro-communautés, alors des communautés familiales, amicales, de pensée, voilà, qui existent et qui vous permettent de voilà, vous guider parmi ces choix. Donc oui, on a beaucoup plus de choix. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal?
Mais
c'est
en fait,
une réalité, mais on est aussi ouais. plus guidé et on peut plus faire appel à la fameuse intelligence collective que vous évoquiez, qui peut être une intelligence partagée par centre d'intérêt et vos pairs. Donc après, on revient à la défiance des élites, mais vos pairs sont là aussi pour vous guider, partager des expériences, parce qu'on vit aussi dans un monde où la notion d'expérience, beaucoup plus forte encore que dans les années 70, est clé. Et donc, quelqu'un qui a vécu une expérience va vous raconter. Donc l'accès au bouddhisme peut passer par l'expérience, la méditation ouais. peut passer par le partage d'expériences. Ouais. Donc c'est assez effrayant, le choix, mais en même temps, on est moins seul face au choix qu'avant.
On n'a jamais autant douté, disent certains. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu l'un et l'autre ce récent sondage, mais il est assez parlant sur le côté incertain de ce monde, le monde de cette époque du doute, des incertitudes qui planent vraiment ce mot. D'ailleurs, incertitude intervient, apparaît tous les jours quasiment quelque part. Nous nous retrouvons, si vous le permettez, pour la suite de cet échange, juste après cette page en couleur.
La Bible est une histoire de famille et la raconter renforce notre foi. Chaque dimanche à 9h30, Jocelyne et Étienne Tarnot déchiffrent pour vous les symboles qui la jalonnent, comme la colombe de Noé ou la baleine de Jonas. Pour s'ouvrir au mystère des Écritures, la Bible pas à pas, c'est tous les dimanches à 9h30.
Le 22 juin prochain, l'Aide à l'Église en détresse publiera son 16e rapport sur la liberté religieuse dans le monde. À cette occasion, l'AED a invité Mgr Dabiré, président de la Conférence des évêques du Burkina Faso, à témoigner de la situation dans son pays en proie à une montée exponentielle du terrorisme. Venez écouter son témoignage exceptionnel le jeudi 22 juin à 19h30 à la mairie du 16e arrondissement à Paris. Plus de renseignements sur www.aed-france.org.
Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole.
Sans doute parce qu'on est plusieurs à avoir besoin de cheminer vers le Christ et que pour moi, Radio Notre-Dame, c'est un des moyens réels de cheminer vers le Christ. En tout cas, c'est une façon de s'enrichir les uns des autres, d'écouter la parole d'autres pour réfléchir soi-même. Et ce cadeau-là, il est précieux. Donc pouvoir y participer financièrement, c'est aussi envoyer le message du Christ le plus loin possible.
Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e, ou rendez-vous sur www.radionotredame.com. Merci.
En quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu.
Sommes-nous en train de perdre notre esprit critique? Figurez-vous qu'Emmanuel Juste Duis a justement la tête qui tourne quand il voit la FNAC, et moi aussi d'ailleurs. Quand je vois tout ça, et comme quand on reçoit ici Radio Notre-Dame sur parfois. Alors vous avez peut-être une réponse à la question mystérieuse que nous nous posons tous dans cette rédaction. Pourquoi on reçoit parfois des livres sur un même thème? On a l'impression qu'ils se sont concertés, les spécialistes en question, si vous parlez de spécialistes du coup, mais qui écrivent un. Je sais pas, parfois on reçoit 4 ou 5 livres sur le même thème en même temps. On sait pas pourquoi. Incroyable.
Ça s'appelle l'air du temps, non ?
L'air du temps, mais parfois c'est quand même assez stupéfiant. Je trouve que ça arrive de plus en plus fréquemment, donc c'est pour ça que je m'interroge. Peu importe, nous sommes toujours en train d'essayer de répondre à cette question. Sommes-nous en train de perdre notre esprit critique ? Eh bien, Véronique Reissoult est avec nous, elle qui est enseignante, experte en stratégie de réputation en communication de crise et spécialiste de l'opinion. Elle a écrit L'ultime pouvoir, la vérité sur l'impact des réseaux sociaux aux éditions du CERF. Emmanuel Juste Duit, qui est philosophe, enseignant, cofondateur de Wikidébat et les Cafés de l'Info, qui a écrit ses derniers ouvrages, Doper son esprit critique, on y vient. Penser et agir dans un monde complexe, c'est encore possible, je l'espère, n'est-ce pas Emmanuel Juste, à la chronique sociale. C'est vrai que j'allais vous demander, juste avant qu'on se sépare tous les trois, on a l'impression quand même, vous voyez, les différents groupes. Moi, je suis abonnée à des groupes de mamans, je suis une jeune vieille maman, mais bon, bref, peu importe. Il y a des parfois, alors c'est pas pour me targuer d'être une super sachante sur en la matière, mais les questions, mais les doutes, mais les gens doutent. On a l'impression qu'on vit dans un surdoute en fait. des questions basiques. Ouais. Alors, où est passé le bon sens? C'est vrai que ça aussi, du coup, on a l'impression que c'est une espèce de contrebalancier. Faites appel à votre bon sens, faites-vous confiance, parce que les gens sont complètement dans le doute, incertains. Emmanuel, est-ce que vous êtes d'accord ou pas ?
Je suis assez d'accord et je pense que ce n'est pas forcément malsain. Enfin, le problème de l'esprit critique, c'est qu'on peut dire qu'il y a toutes sortes de façons. C'est un outil, l'esprit critique, ce n'est pas une fin en soi.
C'est un outil, l'esprit critique. On ne l'a pas défini, en fait.
Finalement, un outil pour essayer de s'orienter dans le monde. Hein. C'est censé, ça vient de l'idée de tamiser l'information. Donc, comment on utilise cet outil ? Moi, mon impression, si vous voulez, c'est qu'on a eu des outils intellectuels et des outils conceptuels et théoriques et d'appréhension du monde qui ont été forgés dans des sociétés beaucoup plus simple, où il y avait beaucoup moins d'informations et qu'il y a une période où on est une période d'adaptation. Donc je ne suis pas très très optimiste sur la période qu'on traverse, je pense qu'elle est assez complexe.
D'accord.
Parce que je pense que si vous voulez, on avait des outils qui étaient forgés pour des sociétés où l'information allait moins vite, qui étaient beaucoup, beaucoup moins complexes. Vous imaginez qu'on avait une seule chaîne de télévision dans les années 60. Bon, je reviens toujours aux années 60.
Il y avait deux JT. Aujourd'hui, c'est combien il y en a ?
Non, je ne sais pas combien il y en a, dites-moi.
27.
27 JT, vous imaginez, journée, rien que les JT. Et puis je parle même pas des sites d'information, des radios justement, etc. Et des podcasts, et des YouTube, et bon. Donc si vous voulez, on est passé d'une multiplication par un facteur pour les journaux télé 20, et pour les autres choses, des facteurs 1000, 10 000, 1 million. Donc nos outils intellectuels n'ont pas suivi. Donc le problème maintenant, à mon avis, ça va être vraiment une réflexion sur comment rationaliser cette information, comment la hiérarchiser. Et là où je ne suis pas très optimiste pour l'instant sur les réseaux sociaux et sur les forums de discussion, parce que j'ai vu à un moment, je vous ai entendu, Véronique, vous parliez des forums de débat, et vous disiez, il y a beaucoup de choses intéressantes, etc. Moi aussi, c'est vrai que j'ai été voir des forums, mais j'ai trouvé que c'était à la fois intéressant et très frustrant, parce que c'est de l'information empilée, en fait. Il y a une intervention, une autre, il y a des ressources qui sont là, des ressources qui sont là, et il faut passer un temps fou. Donc comment, la question que je me suis posée, et c'est pour ça que j'ai cofondé Wikidébat, c'est comment rationaliser cette information, comment éviter de perdre du temps, parce qu'actuellement, si on s'intéresse à un sujet, comment on fait ? On va aller voir, alors, comme vous dites, soit on est effectivement dans une communauté d'experts, de pairs qui peuvent nous intéresser.
Là, okay.
Mais si c'est pas le cas, on va un peu, d'abord, on va aller sur Wikipédia, effectivement, avoir une idée générale, qui est souvent, bon, ça a été assez critiqué, ça peut se discuter. En général, les spécialistes des sujets disent que Wikipédia n'est pas toujours parfait, mais disons, pour une première approche, pourquoi pas.
Ouais.
Mais après, même au niveau livre, lesquels prendre, les livres restent pas très longtemps dans les librairies, dans les bibliothèques, il n'y a pas tout, quels journaux prendre, donc on va un peu aller sur le net, et on va passer énormément de temps. Mais est-ce qu'on a des lieux qui font une synthèse, qui proposent des synthèses, et des synthèses, je dirais, non orientées idéologiquement? Parce que le problème, c'est
mais
qu'on
c'est
a...
impossible.
Eh ben, c'est ce que propose Wikidébat. J'allais dire Wikipédia, je les confonds souvent. Wikidébat, c'est ça. C'est-à-dire l'idée, c'est le pari qu'on fait, c'est qu'une synthèse de l'information est possible si c'est méthodique et ouvert, si c'est lisible. C'est-à-dire, on prend un sujet ou un sujet polémique, que d'ailleurs, ce n'est pas nous qui le choisissons, c'est les gens qui peuvent créer leur sujet, et on demande à chacun d'intervenir, et la personne en général qui a le sujet, elle connaît, qui propose le sujet, on a fait un sujet, Dieu existe-t-il ? Eh ben, vous verrez que, à mon avis, il y a sur ce sujet-là les principaux arguments qui en faveur de l'existence de Dieu et les principaux arguments qui contestent l'existence de Dieu. On n'est ni dans une optique confessionnelle ni dans une optique athée. On a donné la parole à tout le monde et c'est lisible. Et on a vu que finalement, il y avait un nombre limité d'arguments. C'est-à-dire que, en fait, mon idée principale, c'est qu'on peut se créer un avis éclairé si on comprend qu'en fait, la complexité, on peut la dépasser. La complexité, c'est une première approche. Mais si on apprend à rationaliser cette information, à aller plus loin dans l'information, on s'aperçoit que beaucoup de choses sont des répétitions.
Concrètement, ça veut dire qu'on se met à la place de l'autre, que la démarche intellectuelle est laquelle, au fond, Emmanuel ?
La démarche intellectuelle, c'est de se dire qu'on définit un sujet qui nous intéresse ou une discipline qu'on veut appréhender et qu'on va aller voir les différents acteurs qui s'intéresse à ce sujet ou à cette discipline. Ça peut être une discipline artistique, les différentes écoles de dessin, ça peut être un sport, ça peut être une question philosophique. On va aller voir. Et on va s'apercevoir relativement rapidement qu'en fait, on va tomber sur des boucles. C'est-à-dire que les gens répètent les mêmes choses et donc qu'il n'y a pas, il y a peut-être 300 écoles de dessin à Paris, mais finalement, il n'y a pas un nombre infini de styles de dessin. Mmh. Donc, on va s'apercevoir qu'un choix, on va réduire le paquet d'ondes, comme disent les physiciens, c'est-à-dire, on va s'apercevoir qu'un choix qui paraît insaisissable, parce qu'une société trop complexe, trop de choix, trop d'informations, etc., il y a des répétitions, du moins si on reste sur un sujet restreint, bien sûr. Et donc, on peut réduire ce bruit informationnel et qu'on peut faire une typologie de différentes options possibles, et après, pour chaque option possible, faire une typologie des arguments. Et c'est ce qu'on fait sur Wikidébat, et c'est la réflexion que j'essaie de mener en avec une association qui s'appelle le Laboratoire du débat méthodique, qui a pour but de réduire cette information, ce bruit informationnel.
En gros, réapprendre à réfléchir correctement, quoi. Vous êtes en train de me
dire réapprendre à modéliser, c'est-à-dire réapprendre quels pourraient être des nouveaux outils qui nous permettent de faire face
de
à ce flux, à ce flux incessant d'informations, en repérant des régularités et en n'étant plus noyé. Et c'est pour ça que je vous dis, je suis pas très optimiste actuellement sur les réseaux sociaux, mais je les connais évidemment beaucoup moins bien que Véronique, mais elle me dira peut-être, parce que pour moi, les réseaux sociaux, c'est une information invertébrée, c'est-à-dire, c'est plein de données qui arrivent comme ça dans tous les sens et qui nous bombardent. Alors, peut-être que je me trompe. Non,
Véronique, d'accord.
10 000 choses à dire sur ce que vous avez dit. Et on n'aura pas le temps. La première des choses, c'est qu'il y a une donnée qu'on a peu évoquée, mais c'est le temps. L'esprit critique, c'est quand même fondé sur prendre le temps. Et nous vivons dans une société, là je vous rejoins, où le temps n'est plus notre ami.
On lit plus de bouquins.
On n'a plus de temps. On doit aller vite. On doit se faire une opinion rapidement. Et on n'a pas toujours le temps de prendre le recul qui permet d'avoir cet esprit critique et de tamiser, comme vous dites si bien.
Et de nuancer. La nuance est terminée.
C'est terminé. Et c'est d'autant plus terminé que sur les réseaux sociaux, la nuance ne vous fait pas émerger et que l'objectif, il est d'émerger. Donc, voilà. Pour autant, il y a quand même des choses qui peuvent nous permettre de se dire qu'on n'est pas tous foutus.
Bon, Véronique.
La première des choses, c'est que Wikipédia, vous avez cité, c'est un réseau social où il n'y a que des internautes. Alors, il y a quelques dérives. Parmi ces dérives, c'est un manque de transparence. Mais globalement, on va se dire que c'est assez incroyable de se dire qu'au niveau mondial, on a une encyclopédie qui se trompe, certes, mais pas si souvent que ça.
D'accord.
Donc, déjà, ça veut dire que quand on met de l'intelligence collective au sens « je vous donne les moyens à vous, les gens, par sujet », ça peut donner quelque chose. Le deuxième point, c'est que les réseaux sociaux ne sont faits que d'algorithmes. L'un des sujets de ces algorithmes, c'est qu'on ne les connaît pas. Mais à quoi servent les algorithmes? C'est que, comme vous le disiez fort justement, des informations arrivent dans tous les sens, partout, il va bien falloir les trier. Donc c'est pour ça que vous êtes dans « c'est pas tout à fait un amas dans tous les sens », c'est qu'en fait c'est très trié. Le problème est qu'on ne connaît pas les modalités selon lesquelles c'est trié. Est-ce qu'on me pousse des informations parce que ce sont des gens qui pensent comme moi, ce qui est souvent le cas? Est-ce que c'est au contraire, je voudrais avoir que des avis contradictoires, qui pourrait être une façon de créer l'avis critique, et c'est faisable via les algorithmes, ou est-ce que je ne veux avoir l'avis que des gens que je connais, ou que des gens des groupes d'intérêt? Enfin bref, il y a plein de critères que l'on pourrait déterminer, mais aujourd'hui, évidemment, il y a des algorithmes pour faire en sorte qu'on se repère dans l'ensemble du bruit qui existe. Donc, là où il y a un espoir, c'est que si on arrive à obtenir des plateformes que les critères et les algorithmes utilisés soient plus transparents, qu'on puisse les choisir. Il y a peut-être des gens qui n'ont aucune envie d'avoir un débat contradictoire et aucune envie d'avoir cet esprit critique, puisqu'il y a même des sondages qui disent des horreurs sur le nombre de personnes. On l'évoquait tout à l'heure.
Et oui, 4 Français sur 10 quand même, admettent qu'ils n'en ont pas.
C'est étonnant, j'en ai plus, parce que ça prend du temps et que c'est compliqué. Et
ça ne les intéresse plus, quoi,
je crois,
de savoir les choses.
Par moments, les gens abandonnent en disant c'est trop compliqué, c'est trop long.
Ils sont écœurés peut-être aussi. Hein.
Donc peut-être que ces 55% des gens nous diront non, mais moi je veux pas d'avis contradictoire, ne me montrez que des informations de gens qui sont d'accord avec moi. Ouais. Et puis vous allez avoir des gens qui, au contraire, qui sont ceux qui suivent Wikidébat et qui vont dire non, moi j'aime bien avoir un autre avis pour comprendre, pour me faire une opinion, pour avoir un esprit critique. Mais il faut pouvoir le choisir et dire j'aimerais bien ça déjà.
D'ailleurs, c'est intéressant, Emmanuel, juste un petit sondage. J'aime beaucoup les chiffres de temps à autre. C'est une déformation professionnelle épouvantable, j'en conviens. L'étude qui se base entièrement sur le rapport des Français à la science, par exemple, vous l'évoquiez tout à l'heure. Donc, révèle que 55% d'entre eux s'informent sur des sujets scientifiques au moins une fois par mois. Donc, ça prouve à quel point, effectivement...
Une appétence,
Il y a une appétence, quand même. Tout est paradoxal, un peu, quand même.
Oui, alors... nous sommes ambivalents.
J'aimerais quand même vous poser une question, Véronique, parce que ce que vous avez dit, ça m'interpelle et ça répondait en quelque sorte aussi à ce que je vous disais.
Ça s'appelle un dialogue, j'ai essayé.
C'est
le but de l'émission.
Vous pensez que les individus, les utilisateurs, vont pouvoir déterminer eux-mêmes, par exemple, faire une sorte de signalétique eux-mêmes. Voilà, moi je vais recevoir tel type de...
Bien sûr,
je vais recevoir les avis qui contredisent mes avis.
Vous n'avez pas remarqué ?
Vous pourriez. Le truc, c'est que les plateformes...
Ça se fait naturellement, hein, d'ailleurs.
Non, alors en fait, justement, la difficulté, c'est que selon les réseaux sociaux que vous utilisez, les algorithmes ne sont pas les mêmes. Si vous allez sur TikTok, peut-être pas là où vous allez les deux matins, mais c'est pas le même algorithme que sur Twitter
Facebook.
La complexité, c'est que souvent, alors déjà les plateformes ne le partagent pas, que leur propos, il est de vous faire rester le plus longtemps possible et donc de perdre du temps, justement. Et donc, ils vont mettre en place un système qui vous attire de message en message. Et donc, c'est pas forcément là où vous allez former votre esprit critique.
Ouais.
Et surtout, les rares fois où ils informent de façon assez obscure. On ne comprend pas forcément. On va vous donner des explications algorithmiques, à moins d'être une spécialiste du sujet, vous ne comprenez pas. Mais pour autant, on pourrait très bien imaginer qu'ils partagent les informations de façon simple et claire, et vous cochez une case. Ben moi, je ne veux que des avis contradictoires, ou je voudrais un peu des deux, ou je voudrais que des gens qui sont d'accord avec moi, ou que des amis, ou que des gens que je connais. Enfin voilà, vous pouvez choisir. Ça ne serait pas compliqué, parce qu'en fait, c'est un choix algorithmique, et vous envoyez...
Et ce n'est pas le cas parce que...
Parce que leur intérêt, il est de créer de l'audience, et leur intérêt est que vous restiez plus longtemps sur leur plateforme, parce que leur modèle économique, c'est un modèle économique sur l'audience. Donc, ils ne le font pas. Après, on pourrait très bien imaginer que l'esprit critique en question passe par le collectif, et il faut vous donner des moyens. Et je prenais l'exemple de Wikipédia, vous avez des moyens, enfin, c'est fait pour que vous puissiez, une communauté d'internautes qui a été sélectionnée par leurs bonnes connaissances, peuvent venir sourcer. Vous pouvez le faire, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais vous pouvez le faire aussi. On pourrait imaginer sur une plateforme qu'on vous donne les moyens, justement, de réguler et de faire ce que vous faites sur Wikidébat, en disant, voilà, il y a cet endroit-là, les gens sont plutôt pondérés et ont un point de vue sur tel sujet, à cet endroit-là. Enfin, voilà, de vous guider et de donner des moyens. Et les plateformes ne le font pas. Et alors, je ne vous parle même pas sur les sujets de modération, où là... les internautes seraient sans doute là, leur bon sens dont vous parliez tout à l'heure reviendrait, et on ne leur donne absolument pas les moyens de le faire.
Alors je m'adresse au philosophe que vous êtes, Emmanuel Just, sommes-nous retournés dans la caverne avec la métaverisation, on peut dire ça, de la société? Vous parlez de ça, Véronique, dans votre livre. C'est peut-être aussi pour cela que vous n'êtes pas très optimiste, je ne sais pas. Est-ce que nous sommes retournés dans la caverne?
Vous voyez ce que je
veux dire?
Oui, enfin, la caverne, moi, je la vois à un sens de la condition humaine vraiment profonde, de l'être humain qui serait dans une sorte d'illusion par sa nature très limitée, très ignorante, et devrait accéder petit à petit par une sorte de travail sur soi à la sortie de la caverne. Je vois un niveau encore plus profond, la caverne. Oui, on y retourne d'une certaine façon, parce que ça rajoute à l'incertitude et au désarroi humain qui est déjà notre lot, encore plus de désarroi et d'incertitude. Donc on est dans une sorte de double caverne. Il y a non seulement les illusions de notre condition, mais en plus les illusions de cette information. Mais là où je suis pessimiste, c'est-à-dire je suis un peu critique sur les réseaux sociaux actuels, parce que pour moi, ils participent de ce bruit, de cette information, alors effectivement qui est choisie par des algorithmes, mais comme vous dites, des algorithmes qui ont pour but de faire rester les gens, de les faire passer d'un message à un autre, et finalement de se perdre dans un labyrinthe. Moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est comment, je ne parlerai pas de caverne, je parlerai plutôt de labyrinthe. C'est comment sortir de ce labyrinthe où on passe d'un message, à un autre, une sorte de jeu de piste sans fin.
Sans but.
Je crois qu'on se rejoint. Je suis là où je suis optimiste, c'est je crois en l'intelligence collective.
Vraiment, moi aussi.
Voilà, c'est-à-dire que je crois que ce problème-là dont on parle, on le ressent tous les deux, et plein de gens le ressentent, et qu'on est en fait pas mal de personnes qui allons dans le même sens et qui cherchons en gros à élaborer ces nouveaux outils, à améliorer les outils qui existent, pour aller dans le sens de cette hiérarchisation, de cette rationalisation de
ça. Et pour ça, il faut de la transparence, ce qui n'est pas le propre des plateformes, mais de la transparence. Il faut donner des outils et des moyens. Il faut éduquer les gens aussi, ce qui n'est pas le propre.
Transparence, parce que tout ça, c'est la pub à chaque fois.
Oui, c'est ça, pour avoir de l'audience. Donc c'est très obscur, vous ne savez pas la réalité des choses. Et comme vous le disiez, on vous pousse à aller d'un sujet à un autre sujet, mais au tout début d'Internet, donc c'est pas il y a si longtemps que ça. On va dire que l'idée, elle était belle. Pareil, au début des réseaux sociaux, il y a une forme d'utopie qui était plutôt sympathique. Et il y avait une pratique, On a commencé par un nom bizarre, peut-être que celui-là, vous le connaissez quand même, qui est la sérendipité.
Non, pas du tout. Pardonnez-moi.
Alors, vous connaissez la sérendipité.
Je l'entends, mais j'oublie toujours.
Quelle est le sens de ce mot?
Eh bien, la sérendipité, c'est le fait d'arriver quelque part ou d'un événement qui vous arrive par hasard et qui s'avère être extrêmement bénéfique. La tarte tatin est issue de la sérendipité. Les sœurs tatin se trompent, ça tombe, et aujourd'hui.
Ou l'omelette, et on en passe. Il y en a énormément.
Il n'y en a pas. Et sur le web, on surfait, on se promenait, et la sérendipité faisait qu'à un moment donné, vous tombiez sur une information incroyable. Ce n'était pas du tout ce que vous cherchiez, mais c'était extrêmement intéressant. Mais un, les volumes étaient plus petits, on avait plus de temps, et surtout, il n'y avait pas ces fameux algorithmes qui vous guidaient, quoi qu'il arrive, vers un sens que vous n'aviez pas choisi.
Non.
Et donc, du coup, vous pouviez tout d'un coup tomber sur un texte incroyable, découvrir un auteur. Enfin, voilà. La fameuse sérendipité avait plein de vertus positives. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Parce que ces algorithmes vous poussent vers quelque chose. En fait, il n'y a aucune sérendipité. C'est juste des suites logiques que vous ne comprenez pas, où on vous amène vers quelque chose qui n'était pas forcément...
Logique obscure, quoi.
Exactement. Donc, moi, je pense que vous avez raison, et on est nombreux à le penser, l'intelligence collective, c'est une clé. Mais il faut nous donner des outils, de la transparence.
Eh bien... Oui, mais attendez, moi j'ai vu des reculs de l'intelligence collective qui m'ont un peu attristé. Je me souviens d'avoir rencontré, par exemple, à une époque, des journalistes qui disaient « voilà ce qu'on va faire, on va faire des articles et on va demander aux internautes qui connaissent d'interagir avec nous, donc par une sorte de forum derrière attaché à l'article, on va modifier avec le temps notre article ». Avec les informations qui, peut-être d'internautes qui sont plus spécialisés que nous. Et je trouvais que c'était intéressant. Peut-être ça peut être critiquable, mais...
Non, mais ils l'ont fait à un moment donné, mais ça prend un temps de fou.
Mais vous
vous rendez compte, toutes les modifications...
Et donc là, aujourd'hui...
Non, pas à chaque fois, parce qu'il y aurait, on pourrait avoir, par exemple, un collège d'experts qui regarde des articles et qui remodifie. Enfin, pour moi, ces niveaux d'interaction entre des journalistes, des médias, et j'ai vu que maintenant... Beaucoup de journaux ont fermé leur forum.
Non, mais alors, c'est intéressant, ça, Manuel Jus,
Ça m'interroge, je me dis, tiens, pourquoi...
Ils ont fermé leur forum.
Leur forum, pas forcément, mais leur forum de discussion derrière des articles, c'est verrouillé.
Oui,
c'est...
mais en fait,
et
non.
Ça me pose question.
En fait, ils sont verrouillés sur les sites.
Ça,
ils sont verrouillés sur les sites parce qu'il y avait des dérives et que la modération était compliquée. En fait, vous les avez sur Facebook. À peu près tous les médias, aujourd'hui, ont une page Facebook qui fonctionne plutôt bien.
Il faut voir les commentaires, Véronique.
Ah mais non, mais c'est pour dire que c'est pas fermé.
Oui, mais c'est d'un autre niveau, quoi. C'est un niveau en dessous.
Voilà, je vous dis, il y a le meilleur et le pire. Oui, il n'y a pas que des gens qui écrivent bien et des génies qui commentent, mais au moins ils s'expriment.
Mais
voilà.
Je pense qu'on peut le corriger par certains outils.
Oui,
parce
oui.
que justement, par exemple, Wikipédia est un bon exemple. Wikipédia, par l'intelligence collective, il n'y a pas d'horreur comme dans des commentaires.
Mais non.
Il n'y a pas ça. C'est auto-corrigé par la communauté, par l'intelligence collective.
C'est ça que j'appelle l'intelligence collective.
Exactement. Ouais. Et c'est ce qu'on fait aussi à Wikidébat. Dans Wikidébat, vous n'avez pas de message d'insulte, de message. Parce que tout simplement, ça ne s'y prête pas. L'outil ne s'y prête pas.
C'est ça, en fait,
on
une question
demande
d'outil.
Aux gens. Voilà, l'outil. Vous pouvez avoir des outils
il faut donner les
qui
moyens.
Évitent, par leur structuration même, les attaques à dominem, par exemple.
Mais la preuve,
qui sont, je veux dire, qui trouvent pas leur place. Nous, dans Wikidébat, c'est une question de donner des arguments. On ne demande pas aux personnes de raconter leur vie, de témoigner. On demande simplement d'insérer un argument défini ou une critique ou une objection dans une architecture ou de créer l'architecture ou de la modifier. Donc, il n'y a pas à dire « machin est un crétin ». Bien sûr, c'est surveillé, on élimine les messages qui sont non avenus. Mais si vous voulez, il est tout à fait possible de faire une structure qui favorise des interventions de qualité ou des interventions, disons, adaptées à l'endroit où elles se trouvent.
On parlera des options, peut-être des issues possibles par le biais de l'éducation de nos jolies têtes blondes, si vous le permettez, juste après cette, pas non page en couleur, mais cette révolte, Sylvie Samuel. À tout de suite.
Radio Notre-Dame. We'll be right back.
la cour te pointe du doigt.
Voilà pour Samuel, la révolte. Soyons un peu révoltés, mais pas trop, sur Radio Notre-Dame, à l'heure où nous parlons de l'esprit critique, justement. Sommes-nous en train de le perdre, cet esprit de critique? On n'a même pas évoqué l'origine de ce mot. Cher ami philosophe Emmanuel Juste, vous qui êtes justement enseignant, philosophe, donc cofondateur de Wikidébat et des Cafés de l'Info, vous nous direz à la fin de l'émission comment s'inscrire, etc. Hein, peut-être quelques mots, Emmanuel Juste. Doper son esprit critique, en tout cas, penser et agir dans un monde complexe, on en parle aujourd'hui. C'est le titre de votre dernier ouvrage aux éditions de la Chronique Sociale. Et Véronique Reissoult, qui est enseignante, experte en stratégie de réputation, communication de crise et spécialiste justement de l'opinion, qui a écrit « L'ultime pouvoir, la vérité sur l'impact des réseaux sociaux aux éditions du CERF ». Ce n'est pas une plaisanterie cette histoire. Et côté éducation, quand il y a Instagram en face, c'est pas simple non plus, Véronique.
Non, c'est compliqué. Alors autant on était très positif jusqu'à maintenant, j'ai peur de... En tout cas, j'essayais de l'être. Mais là, c'est
faut dire la vérité à un moment
voilà.
donné.
Là, c'est la vérité qui est... D'abord, l'éducation n'est pas du tout au rendez-vous. Je vais vous prendre un exemple. On a beaucoup parlé de Wikipédia, par exemple.
Oui.
Eh bien, quand nous étions jeunes, donc hier, on apprenait au primaire à se servir d'un dictionnaire.
On est d'accord. On allait au CDI, on allait à la bibliothèque.
Et on nous apprenait à servir...
Faire des recherches.
Voilà, comment on fait des recherches dans une encyclopédie, etc. Aujourd'hui, forcément, le dictionnaire a un petit peu disparu du quotidien des jeunes Français et des jeunes tout court dans le monde entier. Et donc, s'ils se renseignent, ils vont sur le web et ils tombent sur Wikipédia. Eh bien, au lieu de dire « on va vous apprendre à vous servir de Wikipédia », parce que c'est un sujet, il faut apprendre à regarder les sources qu'il y a... Voilà. Comment les sources ont été posées, la chronologie, qui est l'émetteur, enfin voilà.
Oui.
On interdit aux jeunes élèves de se servir de Wikipédia. En leur disant, c'est très mal, tu vas copier, c'est pas bien, et donc surtout, tu n'as pas le droit. Déjà, on va dire que l'esprit critique dont nous parlons tout à l'heure, depuis tout à l'heure, c'est compliqué. Si on ne m'apprend pas à comprendre les sources et qui me donne une information, mon esprit critique sera plus compliqué. Donc déjà, rien que ça, c'est un sujet. Et je vous passe le fait que plus vous vieillissez, plus à l'école, on pourrait vous apprendre des tas de données, la géopolitique et la réalité des frontières dans un monde où l'ultra-mondialisation et le partage d'informations se fait de façon si simple sur les réseaux ou sur le web. Enfin bon, il y a plein de... La notion des données personnelles, là aussi, on pourrait vous apprendre ça en quatrième. Enfin voilà, bref, c'est pas fait. Mais là où je suis plus inquiète, c'est que aujourd'hui, votre valeur sociale, on en parlait tout à l'heure, vous avez commencé en disant quel drôle de sujet que la réputation, mais votre réputation, elle passe beaucoup par votre image sociale et par ce que vous projetez. Et les adolescents aujourd'hui sont confrontés à quelque chose qui est assez terrible, qui est, on appelle ça l'extimité, définitivement ce matin, ça sera la matinée
on
des nouveaux mots.
On se couchera moins bête.
Voilà. Alors, qu'est-ce que l'extimité? C'est le fait de mettre votre intimité en scène. De sortir votre intimité. Voilà. Et donc l'extimité, bah, c'est les selfies, c'est les photos de vous sur Instagram qui racontent cette vie formidable que vous avez. Et donc votre intimité, vous la racontez d'une façon très enjolivée. Et donc ça donne, il y a des tas d'études qui prouvent que un adolescent qui a regardé un fil Instagram pendant plus d'une heure en ressort extrêmement déprimé et beaucoup moins bien qu'avant, parce que forcément il voit des images incroyables de l'intimité et de donc l'extimité de gens qu'il connaît et lui se dit ma vie elle n'est pas aussi formidable, je ne suis pas aussi jolie, je ne suis pas aussi voilà, je ne vis pas dans des lieux paradisiaques. Donc on vous donne des filtres, on vous donne des éléments pour que vous puissiez améliorer vos photos et raconter quelque chose qui n'est pas la réalité. Et là, vous avez une pression sociale qui est terrible. Et donc Instagram, si on ne vous apprend pas la réalité de c'est quoi vraiment l'intimité...
Est-ce que cette personne est heureuse, elle qui affiche un sourire
Est-ce que votre valeur, c'est vraiment ça? Comment est-ce que je peux me protéger de cette réalité d'une pression? Eh bien, ça fait des dégâts
assez
considérables.
Et ça devrait s'apprendre à l'école, maintenant.
Tout à fait. Et ça n'est pas un sujet numérique. Là, pour le coup, c'est plus un sujet philosophique, mais c'est un sujet où on devrait nous rappeler la réalité de quelle est notre valeur, comment on peut juger l'autre, quelle est la relation à l'intimité, c'est quoi réellement l'intimité. Enfin, et donc, c'est peut-être le point le plus compliqué, parce que l'éducation nationale ne le prend pas forcément comme ça. Quand on vous parle numérique, on vous ramène souvent ça à... on a fourni des tablettes, où il va falloir apprendre à coder. Certes, ce sont deux sujets numériques, mais je crois que le sujet du numérique est plus compliqué que ça, et si on veut que l'esprit critique reste malgré...
On ferait mieux de s'y coter.
Ouais, il y a des choses qui sont un peu angoissantes sur la jeune génération, et je ne vous parle même pas de l'image de la femme qui se dégrade à nouveau, et de tas de choses compliquées, parce que justement, on n'a pas appris cet esprit-là.
Emmanuel, juste, vous savez ce que j'étais en train d'imaginer? Le cerveau humain aujourd'hui, qui est en train de ressembler, d'après ce que j'entends depuis le début de cette émission, à une émission de Monsieur Hanouna, par exemple.
Oh là.
Si on peut tout dire, on s'en fiche complètement. On a envie de savoir.
Ce genre d'émission, l'intérêt, c'est d'avoir des personnes, disons, d'horizons assez différents, mais avec un mélange un peu de tout, de témoignages personnels, de gens qui ont des idées très affirmées. Ouais. Donc, cette diversité, elle est intéressante. Moi, je ne la critique pas. Ce qui est dommage, c'est que ce soit la recherche du clash, la recherche du...
Toujours pareil, du conflit,
et surtout la temporalité dont on a parlé. C'est-à-dire que tout se passe très vite et on n'a pas le temps de s'arrêter sur un point et d'approfondir un point. Or, à la limite, chaque point de discussion mériterait d'être approfondi. Et c'est ça qui me paraît inquiétant dans ce genre d'émission. Ça va être le renvoi de balles comme des tennisman hyper rapides. On ne voit même pas la balle qui passe. C'est des messages comme ça. Donc ça... Alors, je vais revenir quand même un petit peu sur l'école, puisque c'était le sujet dont vous abordiez. Moi, fondamentalement, j'ai traité un peu dans mon livre d'outils que je propose. Par exemple, je développe tout un passage sur la philosophie pour enfants. C'est-à-dire que vous savez, il y a tout un courant maintenant, les nouvelles pédagogies autour de Michel Tozzi ou d'autres auteurs, qui étudie comment, dès des classes même assez petites, il y a Frédéric Lenoir qui avait écrit un livre, Philosopher, méditer, avec les enfants, comment on peut, dès des petites classes, donner l'habitude aux enfants de philosopher. Et alors c'est intéressant parce que j'ai vu des travaux là-dessus, j'ai compilé un peu des choses que j'explique, et il y avait quelqu'un qui avait proposé un système de ceinture, comme au judo, alors ceinture blanche, ceinture... Alors par exemple, la ceinture jaune, c'était poser des questions aux autres. Pas simplement être dans l'affirmation de soi, mais leur demander pourquoi. Ou après, commencer à justifier son point de vue, pas être juste dans l'affirmation, je pense ça ou ça c'est bien, mais pourquoi penses-tu ça?
Argumenter.
Je pense ça, commencer à argumenter. Donc il y avait tout un système très compréhensible, déjà dès l'enfance, pour développer différentes facettes qui sont nécessaires, qui sont des bases à l'esprit critique. Donc moi, je ne parlerai pas des réseaux sociaux que je connais moins, auxquels je me suis moins intéressé, mais je parlerai, je dirais, d'une sorte d'attitude générale. Pour moi, l'esprit critique, fondamentalement, ça repose... Enfin, ce qu'il faudrait, ce qui serait intéressant que l'école transmette aujourd'hui, c'est une attitude générale. Parce que Qu'est-ce que c'est l'esprit critique fondamentalement? Qu'est-ce qu'il permet? Il y a deux façons de le voir. Il y a l'esprit critique contre les autres, ça, ou contre les opinions qui nous dérangent.
Le fameux esprit de critique, on en apprenait au bac de philo.
L'esprit de critique, mais ça c'est un peu dangereux parce que finalement c'est tourné contre autrui. C'est-à-dire c'est en fait pour essayer de descendre en flamme les opinions qui nous plaisent pas ou les points de vue qui nous plaisent pas. Alors que pour moi l'esprit critique c'est un retour sur soi, c'est une lutte contre soi-même, c'est un changement intérieur, c'est une vraie révolution intérieure. On apprend à mettre à l'épreuve ses propres opinions, à penser contre soi-même. Et c'est vraiment la chose qui est difficile. C'est un des objectifs de la philosophie, d'ailleurs. Et je pense que l'école pourrait favoriser cette attitude-là, non seulement par l'étude de la philosophie, mais comme je disais, l'étude très jeune, même déjà pour les enfants, et aussi par le fait de dire, finalement, c'est une médaille à double face, notre société. C'est que c'est vrai qu'il y a cette information qui nous submerge et qui nous donne envie, quelque part, de revenir au connu. C'est-à-dire, c'est une information proliférante qui nous donne envie de se retrouver dans une communauté chaleureuse. Alors d'où, d'ailleurs, les algorithmes. Véronique disait au début de l'émission que quand on voit un point de vue qui va dans notre sens, il y a de la dopamine qui se déclare dans le cerveau. C'est-à-dire qu'on a une sorte de sentiment de satisfaction. On est satisfait de voir quelque chose, d'où le biais de confirmation.
Mais c'est vrai ce que vous dites.
Voilà. Donc on va aller chercher naturellement ce qui va nous confirmer. Pourquoi ? Parce qu'il y a même un mécanisme physiologique à la base de ça, une sorte de satisfaction.
Mais c'est presque animal. Or,
voilà. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut renverser ça ? Parce que ce mécanisme-là, il est très dangereux. C'est ce mécanisme qui peut conduire à de l'aveuglement, qui peut conduire l'individu finalement à n'aller chercher que ce qui va lui donner ce sentiment de satisfaction. Donc aller sur les réseaux sociaux qui le confortent, aller voir les forums qui le confortent, aller voir les opinions qui le confortent. Donc, sur quelle force de l'être humain on va pouvoir s'appuyer pour faire la démarche inverse, qui est la démarche de l'esprit critique, c'est quoi ? C'est d'aller voir les gens qu'on ne va pas voir, d'aller essayer des choses qu'on n'essayerait pas, d'aller lire ou s'intéresser à des disciplines qu'a priori on ne connaît pas, ou même on se dit « Oh là, ça c'est plutôt, je ne suis pas d'accord a priori », de dépasser nos a priori pour être capable d'aller rencontrer même, non seulement je dirais nos adversaires entre guillemets, mais même nos ennemis entre guillemets, parce que quand on va les rencontrer, on va s'apercevoir que c'est des êtres humains comme nous, et c'est cette révolution intérieure-là qu'il faudrait que l'école favorise. Et donc je propose des outils pour ça, mais fondamentalement, en fait, ce serait de réhabiliter la curiosité fondamentalement.
Tout simplement,
la une curiosité. C'est-à-dire de s'émerveiller, une sorte d'émerveillement, de se dire finalement, cette société multiculturelle, elle m'agresse peut-être parce que je la prends d'une certaine façon, mais en même temps, elle m'invite au voyage, elle m'invite à voir plein de choses, à découvrir plein d'expériences. Et c'est ça qui sera la base d'une nouvelle éducation, de non pas être toujours en défense et en fermeture et en essayant de se protéger et en allant toujours dans son propre sens, mais en essayant de favoriser des individus qui feront une révolution intérieure et qui auront envie justement, plus quelqu'un est différent de moi, plus ça m'intéresse.
Plus intéressant, plus, en fond.
C'est intéressant, pourquoi la Véronique, personne est arrivée à une autre opinion
que la mienne. Pour terminer, pour suivre exactement ce que vient d'évoquer Emmanuel Justuit, est-ce que pour les parents qui nous écoutent à la maison, ça se travaille aussi, s'il n'y a pas ça à l'école, autant le faire à la maison, si on peut, par justement éveiller, vous inviter peut-être ça ou pas ?
Ben oui, après c'est une question d'âge, donc voilà, mais poser des règles, c'est un long débat, ça mériterait une grosseur encore, mais poser des règles, est-ce que c'est que l'école qui doit poser des règles ? Est-ce que dans le cercle familial, il ne faut pas des règles ? Alors là, on a parlé de l'ouverture à l'autre et de l'esprit de curiosité. On a un sujet aussi qui est, quand on pose des règles, je reviens au sujet des réseaux et aux dérives, mais parce que c'était l'un de nos tropismes ce matin, mais vous avez entendu parler de l'affaire de la petite Lindsay, qui est terrible, qui a amené à un suicide.
Oui.
Les parents, aujourd'hui, sont souvent perdus, mais il existe beaucoup d'outils. Donc déjà, il y a des moyens pour dénoncer qui ne sont pas connus, et cette famille ne les connaissait pas forcément, mais il y a aussi une réalité des règles. Le téléphone n'a rien à faire dans la chambre d'un enfant le soir.
Eh bien, suite de cette émission à la rentrée, chers parents qui nous écoutent sur ce thème précis.
Et c'est pas facile.
Merci, je sais bien. Et c'est pour ça qu'il faut travailler. Véronique Reissoult, merci, Emmanuel Justuit. Merci, chers amis, pour cette émission.
Merci beaucoup.
Merci.
Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.